Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïlys André, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Deuxième volet de notre série consacrée aux droits de l'homme. Après avoir fait hier un bilan des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, place aujourd'hui à la question des migrations, alors que les Nations Unies viennent d'approuver hier un texte destiné à renforcer la coopération relative aux migrations internationales. Pacte de Marrakech, l'immigration est-elle un droit ? C'est notre sujet ce matin.
Excellences, mesdames et messieurs, je me joins à vous pour nous souhaiter à tous plein succès à nos travaux. Puisse cette conférence historique chargée d'adopter un pacte historique être ce que nous lui souhaitons tous. Une conférence de consécration, celle d'un processus qui a commencé en 2016 avec la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et qui se poursuit aujourd'hui sans s'y arrêter pour autant. Une conférence d'engagement et surtout une conférence d'action, une action ferme au service de l'harmonie entre les intérêts des États et les droits humains des migrants. Une action résolue en faveur de la mise en œuvre durable de ce pacte. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain et président de la conférence de Marrakech. Hier, le pacte de Marrakech a été formellement approuvé, donc par plus de 150 pays sous l'égide des Nations Unies, malgré les critiques des nationalistes de tous horizons et les partisans de la fermeture des frontières. Alors que ce texte n'a aucun caractère contraignant, il n'a pas manqué de provoquer le déchaînement des opposants à l'immigration, parvenant même à déclencher une crise gouvernementale en Belgique avec la démission de plusieurs ministres. Les États-Unis avaient été les premiers à se retirer de son élaboration dès décembre 2017, dénonçant toute forme de gouvernance mondiale dans le domaine de l'immigration, parvenant à entraîner dans son sillage l'Autriche, l'Australie, le Chili, la République tchèque, la République dominicaine, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie. Alors comment comprendre cette polémique que suscite en Europe notamment, mais aussi partout dans le monde, l'adoption de ce pacte mondial sur l'immigration? Quelle pourrait être son influence sur les politiques migratoires nationales? L'ONU porte-t-elle réellement atteinte à la souveraineté des États, comme le laissent entendre certains détracteurs? Et d'ailleurs, l'immigration est-elle un droit? Doit-elle et peut-elle être encadrée par le droit international? Pour évoquer ces questions, deux invités avec nous ici en plateau. Hélène Thiollet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CNRS, professeure à Sciences Po, à l'initiative d'un GIEC de l'immigration qui a été lancé hier officiellement, et puis auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je pense notamment à Migration, 50 questions pour vous faire votre opinion, qui était parue chez Armand Collin. À vos côtés, Thibaut Fleury-Graff, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous, professeur de droit public à l'université Rennes 1, et puis auteur, vous, du manuel de droit international public qui était paru au PUF. Ce qui frappe, Hélène Thiollet, Thibaut Fleury-Graff, c'est évidemment les oppositions suscitées par ce texte, les nationalistes, je l'ai dit, l'ayant assez largement utilisé, instrumentalisé, en expliquant que tout cela allait favoriser l'immigration. Mais quand on regarde dans le camp d'en face, si je puis dire, le camp des défenseurs des droits de l'homme, c'est aussi une déception, puisqu'il se trouve qu'ils considèrent que finalement ce texte est largement insuffisant sur le volet de l'accès à l'aide humanitaire ou sur le droit des travailleurs migrants. Donc c'est un texte qui en réalité ne fait que des mécontents. Est-ce qu'il fallait l'adopter, Hélène Thiollet?
Il fallait l'adopter comme une première étape d'un processus de coopération qui s'annonce bien sûr difficile et polémique, comme ça a été le cas pour de nombreux processus de coopération onusiens. Hein. Il ne faut pas non plus exceptionnaliser trop les migrations, même si là on a quand même une focalisation idéologique, une instrumentalisation politique particulièrement exacerbé dans un contexte qui, il faut le rappeler, n'est pas seulement lié à des phénomènes migratoires, mais lié à d'autres phénomènes structurels, les résultats de la crise économique de 2008, l'augmentation des inégalités, le changement de rapport de force politique dans un certain nombre de pays. Donc voilà, il faut recontextualiser tout ça, mais oui, il fallait l'adopter, et ce n'est que le début d'un processus de coopération.
Thibaut Fleury-Graff, est-ce qu'il fallait l'adopter, sachant qu'il ne change rien ou pas grand-chose pour les migrants et qu'il alimente, qu'il renforce assez largement les mouvements anti-migrants ?
Oui, je pense qu'il était, en effet, je rejoins Hélène sur ce point, nécessaire de l'adopter parce que il était important que l'ONU se saisisse de cette question. Il n'y a pas beaucoup de textes internationaux en matière de migration, il n'y a pas beaucoup d'instruments internationaux sur ces questions. Ce pacte vient d'une déclaration de New York en 2016, au plus fort de ce qu'on a appelé la crise migratoire, entre guillemets. Il était important que l'ONU se positionne sur cette question, que ça renforce ou pas les mouvements anti-migratoires. Finalement, ce qui est important aussi, c'est de voir que c'est l'échelon international qui devient important, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Finalement, pourquoi ce texte provoque autant de rejets, Hélène Thiollet, alors même que je l'ai dit dans mon introduction, et peut-être qu'il va falloir revenir sur ce point, mais on le dit non contraignant, alors finalement pourquoi est-ce qu'on s'oppose à ce texte, puisqu'il ne change rien pour les États ?
Mais il y a plusieurs raisons. D'une part parce que le contenu de ce texte a été présenté de manière absolument fallacieuse et a fait l'objet d'un certain nombre de fausses informations qui sont aujourd'hui qui circulent sur tout un tas de sujets, a fait l'objet même de déclarations politiques comme celle de Marine Le Pen ou d'autres dans d'autres pays qui s'appuyaient sur des non-faits ou des mensonges pour dénoncer le caractère soit contraignant soit attentatoire à la souveraineté étatique de ce texte. Donc il y a eu d'abord, au fondement de la médiatisation de ce texte, qui était quand même très légère avant la semaine dernière en France, hein, mais qui était déjà plus soutenu dans d'autres pays, il y a déjà un processus de désinformation et de mensonge, on peut le dire très simplement. Ensuite, il y a, à mon sens, peut-être une désaffection du public et des personnels politiques envers les institutions onusiennes, c'est-à-dire une sorte de désamour qui se construit progressivement envers ce machin qu'est l'ONU et qui si vous voulez qui suscite des interrogations, parfois de la méfiance, non pas tellement pour le pouvoir qu'il a, mais en fait plutôt pour le pouvoir qu'il n'a pas. C'est plutôt l'inefficacité de l'ONU et sa posture un peu lointaine comme ça qui est critiquée dans les pays occidentaux.
Thibault Fleury-Graff, c'est vrai, Hélène Thiollet a raison de parler de cette défiance vis-à-vis des institutions onusiennes de façon générale, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de plus profond dans la manière en particulier de présenter la migration de façon générale dans ce texte ? On met le doigt, et je ne juge pas, on a probablement raison de le faire, sur les aspects positifs de l'immigration. Or, il semble que ça soit précisément ce qui pose problème dans le camp des anti-migrants. Est-ce qu'il n'y a pas là un positionnement politique qui peut-être est à l'origine justement de cette explosion, j'allais dire, de violence verbale à l'égard de ce pacte?
Je crois que il faut pas non plus tomber dans le piège que ces mouvements populistes nous tendent, c'est-à-dire qu'ils présentent d'abord ce pacte comme le pacte mondial pour les migrations. Or, son intitulé réel n'est pas celui-ci. Son intitulé réel, c'est un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et je pense que quand on rappelle ne serait-ce que cet intitulé, on se rend compte déjà que on peut presque être surpris finalement que les mouvements populistes soient contre des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et si les ONG vous rappeliez qu'il y a eu des critiques sur ce pacte qui tente de dire qu'il ne va pas assez loin, c'est précisément parce que sur beaucoup d'aspects, ce pacte est aussi un pacte qui prévoit de faciliter le retour dans les pays d'origine, qui prévoit une meilleure gestion des frontières, qui prévoit comme ça un ensemble de points qui sont plutôt pas négatif, mais qui tente de limiter, d'encadrer les migrations. Donc déjà, ça c'est un point, je crois, qu'il est important de rappeler. Ensuite, oui, très certainement, ce qui ne plaît pas au mouvement populiste, c'est qu'il y a dans ce texte un certain nombre de dispositions qui viennent affirmer que la migration est quelque chose de positif, si elle est encadrée d'une certaine manière. Mais cela est difficile à contester, et peut-être que ce qui ne plaît pas non plus à ces mouvements populistes, c'est que il est rappelé, et Hélène Thiollet le rappelait aussi tout à l'heure, l'importance des données, des statistiques. Et on dit à un moment dans le pacte que cela est important pour défaire les faux discours sur les migrations. Et ça, je crois que ça inquiète les mouvements populistes de savoir qu'on pourrait donner sur les migrations un regard un peu plus objectif grâce à ce pacte.
Je vous donne la parole dans un instant, Hélène Thiollet, mais d'abord justement sur ce point précis, je vous propose d'écouter Louise Arbour, représentante spéciale des Nations Unies, qui évoque justement ce point précis de la perception, de la manière d'appréhender, peut-être plus scientifiquement, cette question-là.
La vraie réalité au niveau de la migration, c'est que ça a été historiquement, et c'est encore aujourd'hui, une énorme force de progrès. C'est une force économique importante. Ces 250 millions de migrants dans le monde travaillent, contrairement à la perception publique, et leur taux d'emploi, en moyenne, est beaucoup plus élevé que des travailleurs nationaux. Et ils ne volent l'emploi de personne. De façon générale, les migrants sont employés dans des secteurs qui sont négligés par les populations locales, qui sont souvent, évidemment, sous-payés. Et malgré tout, ils envoient chez eux 15 % de leurs revenus, ce qui a contribué l'an dernier 600 milliards de dollars américains, trois fois plus que l'aide officielle que les pays riches envoient vers les pays pauvres. Quand on situe la question migratoire dans cette perspective globale, on se rend compte qu'on a tout intérêt à en maximiser les bénéfices et essayer de s'adresser de façon rationnelle à quelques-uns des défis importants quand même que la migration présente.
Maximiser les bénéfices, adopter une posture peut-être plus rationnelle vis-à-vis de ces défis de l'immigration. Hélène Thiollet, je lis l'article 17 de ce pacte de Marrakech. Nous nous engageons à étoffer la base de données factuelle sur l'immigration internationale en améliorant par des investissements adéquats la collecte, l'analyse et la dissémination de données précises, fiables et comparables. Là, clairement, il s'agit de pousser les États à aborder cette question, l'analyse du phénomène migratoire dans une démarche, je dirais, plus scientifique. Peut-être une manière de dépolitiser justement cette question-là. Mais très concrètement, comment est-ce qu'on fait, Hélène Thiollet, quand on est dans le monde de la recherche comme vous, quand on est dans le monde des médias comme nous, pour justement porter un discours plus scientifique, plus rationnel sur cette question-là?
Ben on peut d'abord
c'est un vrai défi, en absolument. Particulier, et je vous laisse poursuivre, en particulier quand précisément le camp des anti-migrants, en quelques clics, déverse des discours tout à fait particuliers vis-à-vis peut-être de la véracité, de la vérité et des faits.
Bien sûr. En fait, je pense qu'on peut d'abord partager un diagnostic qui peut être celui des scientifiques, des journalistes ou de toute autre catégorie professionnelle ou du public qui a envie d'être informé et de correctement. C'est que ce pacte a en fait représenté un cas d'école du renversement des rapports entre la vérité et le mensonge dans la sphère médiatique et publique. Les gouvernements dont vous parlez ou des activistes dans les médias sociaux ou dans les mouvements qui agitent la France aujourd'hui ont présenté ce pacte comme une apologie de la migration. Pourquoi ? Parce qu'il rappelait des faits relativement objectifs. Ce qu'a mentionné Louis Arbour, l'apport de la migration à la croissance, le nombre de migrants qui sont une toute petite partie en fait de la population. On peut penser aussi à rappeler des éléments sur la géographie des migrations qui se passent surtout dans les pays pauvres et pas vraiment dans les pays du Nord. Voilà. Donc tous ces éléments qui sont des faits, qui sont des produits d'analyse, qui sont rationnels, sont présentés comme de l'idéologie, tandis que des arguments purement idéologique sur la peur de l'autre, la construction de l'immigration comme un problème, comme un problème sociétal, comme une menace, comme un risque pour les ressources des natifs dans un pays, l'idée qu'il y a un gâteau et que le migrant va prendre des parts de gâteau. Tout ça qui sont des constructions idéologiques, arc-boutées sur des raisonnements fantasmés et des faits faux, eh bien, vont être présentés comme des faits.
Alors, comment on fait justement quand la connaissance est aussi malmenée ? Comment est-ce qu'on fait ?
Mais je pense qu'il y a un combat à mener pour faire entendre des voix de professionnels, et encore une fois, scientifiques, journalistes, d'autres, voire personnels politiques, hein, bien sûr, qui justement promeuvent un discours plus dépassionnés sur les migrations, qui mettent en avant et diffusent de l'information, mais aussi communiquent sur le danger de la désinformation. Le danger, pas pour défendre un agenda politique particulier, les scientifiques n'ont pas d'agenda et les journalistes non plus, ils ont des fonctions dans la société, mais pour permettre au public, dans des démocraties, de se faire une opinion qui soit plus juste. Après, il s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent voter. Ils sont absolument libres de leurs préférences idéologiques. Néanmoins, le débat public doit massivement accueillir d'autres voix. Et ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle ce pacte rappelle que les politiques publiques doivent être fondées sur des faits, qu'on a besoin d'informations arc-boutées sur des données, sur des cadres d'analyse rigoureux, c'est déjà un peu hallucinant que ça soulève de la contestation.
Alors, mais je vous donne la parole dans un instant, mais il y a un point précis, regardons un peu ce texte. Dans ce texte, je crois qu'il n'y a pas, on ne fait pas de différence, et c'est l'un des reproches qu'on formule à certains, en tout cas, formulent à son égard, c'est qu'il n'y a pas de différence entre migrants légaux, disons, et migrants illégaux, entre migrants économiques et réfugiés. Ça, c'est une des critiques qui est formulée à cet égard. Est-ce qu'il y a là, il n'y a pas une... Alors même que, et on l'a dit régulièrement depuis cette crise migratoire, on a régulièrement dit, attention, ce ne sont pas des migrants économiques, ce sont des réfugiés, ils ont donc le droit d'asile, etc. etc. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être un manquement, Thibault Fleury-Graff?
Non, il n'y a pas de manquement dans la mesure...
Vous confirmez qu'il n'y a pas de distinction entre les deux dans le texte?
C'est un peu plus subtil que ça.
Allons dans la subtilité.
C'est un peu plus subtil que ça, puisque il y a deux pactes, en vérité, qui vont être adoptés. Il y a celui-ci qui a été adopté pour donc des migrations surordonnées et régulières, et il y a aussi un pacte sur les réfugiés, qui, lui, est en voie d'adoption et qui devrait l'être, je crois, fin décembre à l'ONU. Donc, il y a un texte spécifique sur les réfugiés, et il y a ce texte sur les migrations, entendu au sens global. D'accord. C'est-à-dire, en effet, pour son champ d'application plus général, les migrations, les migrants, quels qu'ils soient, c'est-à-dire aussi bien des réfugiés que des migrants irréguliers ou réguliers. Mais ce que fait le pacte quand même, c'est d'une part, et ça il ne faut pas le négliger non plus, rappeler un certain nombre de droits qui figurent dans un nombre d'instruments extrêmement diversifiés, qui sont d'ailleurs rappelés au point 2 du pacte, les pactes de 1966 sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, les conventions sur les droits de l'enfant, enfin il y a comme ça tout un nombre de pactes qui sont énumérés, et simplement ce pacte-là sur l'immigration vient, dans un même instrument, rappeler quelles sont les dispositions de ces instruments en matière de droits de l'homme. Et ça, évidemment, ça vaut pour les migrants réguliers, irréguliers. Ce sont des êtres humains. Ils ont vocation à jouir des droits de l'homme en tant que tels. Et puis, il y a ensuite un certain nombre de dispositions plus spécifiques aux migrants. Et cette fois, encore une fois, comme l'indique l'intitulé, l'idée est de favoriser l'immigration régulière. Et il y a plusieurs dispositions du pacte qui viennent, qui sont destinées à faciliter les voies légales de migration, à améliorer la gestion des contrôles de frontières, à lutter contre le trafic des êtres humains. Donc finalement, à tenter de favoriser la migration régulière.
Vous avez parlé tout à l'heure, et je vous donne la parole, Hélène Thiollet, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des retours. On sait que l'un des reproches, là encore, formulé par le camp anti-immigration, c'est que l'on est incapable finalement d'appliquer une politique de retour. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, par exemple, sur l'Europe, je crois que c'est seulement un tiers des expulsions qui sont réellement exécutées. Je me trompe pas, ça doit être aux alentours de 36% pour l'année 2017. Est-ce que cette intolérance, une fois encore, vis-à-vis de l'immigration dont on parle, elle n'est pas aussi liée précisément à cette idée que, au fond, l'opinion pense, en tout cas, a l'impression qu'une immigration, c'est forcément une immigration définitive, puisqu'on n'est pas capable de renvoyer lorsque on pense que c'est ça qu'il faut faire les migrants chez eux. Et est-ce que, en particulier, dans ce pacte de Marrakech, il y a des éléments sur cette question du retour?
Il y a quelques éléments sur cette question du retour en ce sens, mais encore une fois de manière très générale, puisque ce pacte est extrêmement général. Il s'agit pas du tout d'entrer dans le particulier, dans le spécifique. Il y a quelques dispositions où l'on dit simplement qu'on va faciliter les retours. Mais le problème des retours, il est assez simple, c'est que pour renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine, d'une part, il faut déterminer ce pays d'origine, et ensuite, il faut que cette personne soit autorisée à rentrer dans son pays d'origine, pour des personnes qui, dans bien des situations, sont démunies de papiers d'identité, de passeport. D'ailleurs, un des points du pacte est précisément aussi de faciliter l'identification des migrants, de leur trouver un moyen pour qu'ils aient des papiers d'identité. Or, obtenir l'accord de l'État d'origine pour que cette personne y soit renvoyée est quelque chose d'extrêmement difficile, qui passe par une coopération, par des négociations diplomatiques entre la France, si on prend cet exemple, et les pays d'origine. Donc c'est la raison pour laquelle il y a finalement assez peu de renvois. Et le pacte part aussi de cette idée finalement assez simple. Quelqu'un qui est en situation irrégulière et qu'on ne peut pas renvoyer, quelle est la meilleure situation? Tenter de l'intégrer ou le laisser dans une situation, une zone grise, un peu de non-droit, c'est-à-dire à la fois sans titre mais sans être expulsable? Je pense que on peut être d'accord assez facilement pour dire qu'une personne intégrée sera une personne qui sera plus bénéfique pour la société dans son ensemble que si au contraire elle est dans une situation marginalisée.
Hélène Thiollet.
Oui, pour compléter ces éléments, on peut rappeler quand même que le pacte rappelle dans ses principes, son troisième principe, l'idée que les États sont souverains et qu'ils conservent et qu'ils doivent renforcer leurs prérogatives pour gouverner les migrations en particulier dans l'application de leur distinction entre migrants réguliers et migrants irréguliers.
D'accord.
C'est-à-dire que leur juridiction sur la détermination du statut des personnes en mobilité reste totale, pleine et entière. Elle est au contraire renforcée par le pacte. Qui la prend comme pierre angulaire du dispositif de coopération. En revanche, cette pierre angulaire s'articule avec tout un échafaudage, et puis après j'arrête la métaphore architecturale, qui est l'échafaudage juridique de l'ensemble des droits et des conventions que les États ont signées, et les droits sur lesquels ils se sont mis d'accord depuis 60 ans, qui remettent, on va dire, les migrants ou les personnes qui bougent dans le droit commun, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que ce pacte a vocation, non pas à créer des droits exceptionnels, mais à rappeler aux États leurs obligations envers toute personne humaine, tout enfant, etc., avec les différents, ou les travailleurs aussi. On peut penser aux conventions de l'Organisation internationale du travail sur les droits des travailleurs. Donc, il a pour vocation à rappeler aux États que les migrants, comme vous le disiez justement, sont des êtres humains comme les autres et que tout État a des obligations envers les êtres humains. Mais ce qui ne retire absolument en aucun cas ni de la souveraineté ni de la capacité des États d'attribuer des statuts différenciés aux personnes.
On va parler dans un instant de la Hongrie et justement je vous propose d'abord d'entendre le ministre hongrois des Affaires étrangères. Écoutez.
Ce document reste un texte considérablement biaisé et déséquilibré dans le sens où il considère la migration comme quelque chose de bien par définition et comme un droit fondamental, ce qu'il n'est pas, et il se concentre seulement sur le droit des migrants et non sur le droit de la population en général. Si un tel pacte est approuvé par les Nations Unies, vous pouvez être sûr qu'il va devenir une référence pour les jugements, les juridictions, quand il faudra juger de cas dans les tribunaux nationaux ou internationaux. C'est trop simple de dire que ce n'est pas juridiquement contraignant.
Voilà, le ministre hongrois des Affaires étrangères, c'était en juillet dernier sur Euronews. C'est trop simple de dire que juridiquement, ce n'est pas contraignant. Je m'adresse à vous, Thibaut Fleury-Graff, en bon professeur de droit public que vous êtes. Les droits nationaux pourraient-ils être modifiés avec ce pacte de Marrakech ?
En aucune manière. Là, je crois qu'il faut être, très clair. Les opinions populistes sur ce pacte ont sciemment passé sous silence cet aspect-là. C'est l'un, comme le rappelait Hélène Thiollet à l'instant, c'est l'un des principes directeurs du pacte que, d'une part, la souveraineté nationale n'est pas atteinte et pour cause, ce n'est pas un texte juridiquement contraignant. C'est écrit noir sur blanc dans ce pacte.
Mais lui dit, il ne faut pas se leurrer, ça aura une influence.
Oui, il peut dire ce qu'il veut, il dit pas mal de bêtises. L'influence que ça aura, c'est un ensemble de principes directeurs, c'est un ensemble de lignes de conduite, c'est un ensemble, si l'on veut, ça sera bientôt la période de bonnes résolutions. On sait tous ce que valent les bonnes résolutions, ça tient généralement jusqu'à début janvier et puis ensuite on arrête l'abonnement au club de gym. C'est exactement, ça peut tout à fait être la même chose ici. Le pacte prévoit dans sa dernière partie sur le suivi de son application une réunion d'un forum d'examen des migrations tous les 4 ans. Les États vont se réunir tous les 4 ans pour discuter de manière intergouvernementale sur les mesures qui ont été prises, sur ces données qui ont été collectées pour voir comment améliorer les choses. Donc ça n'a pas vocation évidemment à rester lettre morte, bien entendu, mais en toute hypothèse, et peut-être là encore il faut rappeler cette évidence, on parle de l'ONU. Mais l'ONU sans les États n'est rien. L'ONU, ce sont d'abord les États eux-mêmes. Preuve en est, c'est que certains États n'ont pas signé ce pacte et par conséquent ne sont alors même pas liés par ces très grandes résolutions. Donc tant que les États ne voudront pas aller plus loin, les États n'iront pas plus loin puisque précisément ils sont souverains. Et puis ce qui est un peu étonnant, on parlait des autres conventions, par exemple sur les travailleurs, on a aussi des conventions internationales qui vont bien plus loin sur ces questions-là que ce pacte qui véritablement juridiquement n'est pas grand-chose.
À quelle convention?
Alors les conventions sur les droits des travailleurs, alors c'est pas sur les migrants en particulier, mais sur les droits qu'ont les travailleurs. On peut penser aussi évidemment à la convention de Genève de 51 sur les réfugiés. On peut penser aussi au droit de lieu. Alors là, le droit de lieu va infiniment plus loin que ce pacte qui est vraiment très très général dans ses dispositions.
Hélène Thiollet, avant de retrouver un nouvel invité sur la Hongrie justement.
Oui, vraiment, c'est assez clair, ce texte n'a vocation qu'à rappeler aux États leurs obligations déjà signées et à offrir une plateforme de coopération, de rencontres, d'échanges de bonnes pratiques sous une forme très douce, enfin de droit très 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 doux. Mais quand on pense en fait au cas de la Hongrie et aux réactions un peu aux éructations, même on pourrait dire auxquelles le pacte a donné lieu, notamment autour de cette question de la collecte des données, un travail plus raisonnable sur la migration en tant que telle et la formation de politiques publiques un peu moins fantasmatiques et idéologiques, on voit bien que au cœur des polémiques qui sont soulevées, c'est vraiment la perception de l'immigration et la perception de ce pacte par rapport aux perceptions de l'immigration qui est en jeu. Donc on est beaucoup plus dans une question des discours, de la construction des savoirs, des connaissances et des perceptions que dans une réalité, ni en ce qui concerne le pacte, ni en ce qui concerne l'immigration. Et la Hongrie se distingue à ce titre comme un pays qui a particulièrement travaillé à construire des perceptions très antagoniste, très polémique, très xénophobe de la migration, notamment en empêchant les scientifiques hongrois et internationaux de travailler sur les migrations en Hongrie. Et je pense là en particulier à un texte de loi qui a été promulgué à l'été dernier en Hongrie, qui interdit de mener des recherches sur l'immigration et notamment sur l'accueil des migrants au titre qu'elle présenterait une vision idéologique de ce qu'est la migration. C'est-à-dire on interdit le travail scientifique comme idéologique tout en promulguant un certain nombre de lois sur la recherche, sur la presse, qui empêchent le travail d'investigation et d'analyse.
On va retrouver tout de suite Hendrik Hansen, professeur de sciences politiques à l'université Andrassy de Budapest. On l'a dit, ce pacte mondial est un texte non contraignant, vous l'avez dit, vous l'avez répété, un texte qui respecte l'autonomie et la souveraineté des États, en reconnaissant que chacun d'eux dispose d'une liberté dans la politique migratoire qu'il veut mettre en place. Donc en résumé, c'est un texte qui n'aurait aucune incidence en fait sur le gouvernement de Viktor Orban dans sa politique migratoire. Alors pourquoi s'en être retiré, Hendrik Hansen ?
Je crois que le pacte est un instrument pour lui. Il faut voir que Orban a commencé à protester contre le pacte déjà au début de cette année, quand on a eu la campagne électorale en Hongrie. On a eu des élections parlementaires en Hongrie en avril 2018. Et cette campagne électorale, elle connaissait un seul sujet, qui était la migration et la peur de la migration. C'est un sujet qui résonne très fort chez les Hongrois. Et en fait, la campagne était aussi, c'était un succès. Il a à nouveau une majorité de 2/3. Et donc, pour lui, c'était avant tout un instrument dans sa campagne électorale.
Oui, donc c'était un message interne finalement. Du côté de la politique intérieure, justement, il y a eu parallèlement à ce pacte une loi qui a été votée récemment qui a introduit une taxe spéciale sur l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'elle prévoit et qu'est-ce qu'elle pourrait changer ?
Oui, c'est une taxe pour les organisations non gouvernementales. Ça veut dire que quand ils reçoivent de l'argent de l'extérieur, ils doivent payer, je crois que c'est 1/4 de la somme, doit aller à l'État comme taxe spéciale. Et le but, c'est de réduire l'engagement des gens dans les organisations non gouvernementales pour la migration. Ça aussi, ça fait partie de cette propagande contre la migration. Parce qu'il faut voir que, en fait, même si Orban, il a gagné les élections en avril, mais pour lui, il se trouve toujours, il est toujours dans, en fait dans un état de campagne électorale. La prochaine campagne, d'ailleurs, sera en mai prochain pour le Parlement européen. Et là, à nouveau, la migration sera le sujet le plus important.
Ouais, il est en campagne permanente finalement. Mais alors, justement, sur cette taxe sur l'immigration, la Commission européenne a saisi la Cour de justice européenne à propos de cette loi sur l'immigration. Le Parlement européen a également voté pour le déclenchement d'une procédure visant la Hongrie, le fameux article 7 du traité de l'Union européenne, qui pourrait peut-être être suivi du Conseil de l'Europe, même si en réalité, on sait qu'il y a assez peu de chances qu'on aille au bout de la procédure, à cause du fait qu'il faudrait un vote à l'unanimité et qu'il y a assez peu de chances qu'on y arrive. Mais est-ce que vous pensez, de façon générale, que les Européens devraient prendre des sanctions et aller peut-être un peu plus en profondeur dans la logique punitive? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait se montrer plus ferme à l'égard de Orban sur les questions migratoires, ou est-ce que finalement il n'y a rien à faire, Henrik Hansen?
À mon avis, il faut séparer les choses, parce que pour ce qui concerne maintenant la position de la Hongrie vis-à-vis du pacte mondial pour les migrations, il y a le côté propagande, mais il y a aussi un côté rationnel, c'est-à-dire un côté qui résonne non seulement chez les gens qui sont des populistes de droite, mais qui résonne chez tous ceux qui se font des soucis vis-à-vis de la migration. Parce que, en fait, pour ce qui concerne le pacte mondial pour les migrations, c'est très difficile à expliquer aux gens pourquoi, d'un côté, on dit, du moins c'est ce que dit le gouvernement allemand, on dit, d'un côté, ce pacte est très important parce qu'il oblige les pays signataires à respecter de certaines règles, et de l'autre côté, on dit que ce pacte ne nous oblige à rien parce qu'il respecte la souveraineté des pays. On peut l'expliquer, il y a une différence entre une obligation juridique et une obligation politique, mais c'est une explication qui n'a pas été donnée suffisamment. Et je crois que c'est pour ça que les arguments de Orban contre le pacte mondial pour les migrations résonnent aussi chez ceux qui, pour d'autres raisons, critiquent sa politique anti-migration. Et en fait, là maintenant, la procédure qui suit l'article 7 du traité de l'Union européenne, c'est pas sur la migration. C'est sur le fonctionnement du système constitutionnel et électoral, c'est sur liberté de l'expression, c'est sur la corruption, c'est sur l'indépendance de la justice. La migration, c'est pas vraiment le sujet de cette procédure article 7.
Mais la Commission européenne a quand même saisi la Cour de justice européenne sur cette loi sur l'immigration, quand même, sur cette taxe spéciale.
Oui.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a deux choses, absolument. Vous avez raison. Voilà, comme ça, c'est très clair. Il y a deux choses.
C'est
un autre volet. Il y a deux choses.
C'est un autre volet.
Absolument. Mais il y a quand même un paradoxe. Il y a quand même un paradoxe, Henrik Hansen, qui est qu'il y a ce rejet très fort de l'immigration, et pas seulement chez le gouvernement, chez l'ensemble en tout cas, une partie de l'opinion hongroise. Et en même temps, l'immigration, elle est très faible. Quand on regarde les chiffres, l'année 2017, c'est 3000, un tout petit peu plus de 3300 demandes d'asile. Alors pourquoi ce rejet alors que l'immigration précisément est loin d'être massive?
Oui, alors ça c'est très intéressant parce que en fait il y a un nationalisme spécifique à la Hongrie. Alors là encore il y a plusieurs volets. Alors quand Orban joue sur ce volet de peur de la migration, il y a d'un côté cette image des invasions barbares du 4e, 5e, 6e siècle liées à la chute de l'Empire romain. Alors ça c'est une image très ancienne, mais qui toujours joue un rôle aujourd'hui parce qu'il utilise cette image des invasions barbares quand il parle de la migration. De l'autre côté, il y a maintenant cette expérience en Hongrie d'une domination étrangère, notamment la domination par les Turcs au XVIe et XVIIe siècle, suite à la perte de la bataille de Mohács en 1526. Et c'est intéressant que cette perte de la bataille de Mohács en 1526, c'est symbolique jusqu'à aujourd'hui pour tout le monde en Hongrie. C'est-à-dire chaque élève à l'école apprend cette date, c'est la catastrophe. 1526, c'est la catastrophe, les Osmanes sont venus et ont annexé la Hongrie.
Tout dernier mot, peut-être tout dernier point, Henrik Hansen. Il y a quelques jours, l'Université d'Europe centrale, fondée par le milliardaire américano-hongrois George Soros, a annoncé qu'elle transférait l'essentiel de ses activités dans la capitale autrichienne. Le Premier ministre a refusé de prolonger son accréditation lui permettant de délivrer des diplômes reconnus aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que sur place, professeurs, étudiants sont extrêmement remontés, alors contre le Premier ministre probablement, mais aussi contre le manque de soutien de l'Union européenne, considérant qu'elle les abandonne et qu'elle laisse Orban piétiner allègrement les valeurs européennes sans rien faire. Il y a quelque chose de très dur, parce que d'un côté, cette Europe est critiquée pour son ingérence, et de l'autre, on l'a dit, trop faible, trop timide dans la défense de ses principes fondamentaux. C'est compliqué.
Oui, mais il faut voir aussi les moyens que les autres États membres de l'Union européenne ont. Parce que quand vous regardez la procédure article 7, elle ne parle pratiquement pas de la migration, de la politique migratoire de la Hongrie, parce que, comme nous avons déjà dit, c'est sur un autre volet, mais elle parle de la liberté académique. Et je crois que une des raisons pourquoi, par exemple, les chrétiens démocrates allemands, pas la CSU de la Bavière, mais les chrétiens démocrates des autres pays allemands, ont voté pour l'ouverture de cette procédure article 7, c'est à cause de ce cas de cette université d'Europe centrale, Central European University. Ça a carrément choqué les gens, du moins en Allemagne, c'est ce que je peux dire, aussi au sein du parti chrétien démocrate qui a toujours essayé d'avoir de bonnes relations avec Fidesz parce qu'ils ont eu l'idée que par cela ils peuvent influencer cette politique, ils peuvent modérer Orban. Ils ont vu qu'on peut pas modérer Orban. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voté en faveur de l'ouverture de la procédure à article 7. Mais il faut être franc, il n'y a pas beaucoup de moyens, à part cette procédure article 7. C'est le moyen le plus fort que nous avons au sein de l'Union européenne pour critiquer un État. Je sais aussi que dans les relations entre l'Allemagne et la Hongrie, elles sont bien dégradées dans les deux dernières années à cause de cette politique contre la Central European University et aussi à cause de toute cette propagande, théorie conspirationniste qui dit que George Soros, il veut donc qui a fondé cette université, qu'il veut ouvrir l'Europe aux migrants pour remplacer le peuple européen par d'autres populations. Ça rappelle vraiment Renaud Camus avec le grand remplacement, ce qui fait partie en France de la littérature de l'extrême droite.
Merci beaucoup Henrik Hansen, professeur de sciences politiques à l'université Andrassy de Budapest. Retour ici en plateau avec vous Thibaut Fleury-Grave, vous vouliez réagir?
Oui, je crois que Henrik Hansen soulève un point important parmi tous les éclairages précieux qu'il vient d'exposer. C'est que la plupart des États qui se sont, alors on dit retirés, mais en fait qui n'ont pas signé ce pacte, sont des États qui sont assez peu concernés par la question des migrations. La Hongrie, l'Autriche, la Pologne, l'Australie, pour citer quelques-uns de ces États, sont peu concernés par ces migrations si on les compare à d'autres États. Et les États qui, eux, sont concernés au premier chef, on peut penser à la Turquie, on peut penser au Soudan, on peut penser au Pakistan. Souvent, on n'y pense pas, mais ces mouvements migratoires, certes, il y a des mouvements migratoires du sud vers le nord, mais il y a aussi beaucoup de mouvements migratoires sud-sud.
Et c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel des mouvements migratoires. Et ces États ont signé sans difficulté, sans problème. Ils voient bien leur intérêt.
Mais c'est bien précisément parce que les États du Sud ont mis la pression que l'on a signé ce pacte. Sinon, probablement qu'il n'aurait jamais été signé.
Exactement. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disait Hélène Thiollet sur la question des perceptions et des discours. Tout cela n'est que question de perception et de discours. Et la migration est présentée dans divers forums publics, toujours sous l'angle de la difficulté, toujours sous l'angle du problème. Je crois que c'est encore apparu récemment dans l'intervention du président Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes, qui place quelque chose sur l'immigration et la question de l'identité française. Donc, présenté encore une fois sous cet angle-là, et non pas sous l'angle que tente à faire valoir le pacte du bénéfice. Et puis, on peut ajouter aussi que ce pacte, eh bien, concerne tout le monde, c'est-à-dire concerne certes les migrants qui viennent des États du Sud vers l'Union européenne, mais concerne aussi les gens d'Union européenne qui migrent vers le Sud et qui peuvent avoir intérêt dans leur pays d'accueil à ce que les droits qui sont rappelés dans ce pacte soient effectivement respectés.
Sur l'Union européenne, justement, Hélène Thiollet, ça fait des mois que l'on voit ce camp des anti-immigrations s'étendre avec de plus en plus de pays qui s'opposent à l'accueil de migrants. On parlait de la Hongrie, on peut penser à la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, maintenant l'Autriche, l'Italie. Même l'Allemagne, d'une certaine manière, est touchée par tout ça. On voit que les choses sont beaucoup plus compliquées avec cette chancelière qui d'abord s'était démarquée avec des positions, disons, assez généreuses, mais qui s'est retrouvée considérablement fragilisée à l'intérieur même de son propre camp, au point d'ailleurs de devoir mettre un terme bientôt, en tout cas, elle a lâché le parti et elle finit son mandat a priori et ensuite elle s'en va. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée, Hélène Thiollet, que eh bien, l'Europe va basculer durablement dans une politique migratoire réduite à son plus simple appareil? Et au fond, est-ce qu'il faut se faire à l'idée que désormais, en matière d'immigration, la seule chose sur laquelle l'Europe est encore capable, l'Union européenne est encore capable de se mettre d'accord, c'est le contrôle des frontières?
Écoutez, sur l'ensemble des mouvements, on va dire des transformations politiques que vous évoquez, j'ai l'impression qu'elles sont souvent raccrochées à la thématique migratoire, mais que les dynamiques de fond qui sous-tendent les votes pour des partis d'extrême droite ou les tournants populistes dans un certain nombre de pays, leurs causes profondes ne sont pas précisément ou exclusivement ou principalement des questions migratoires.
Sauf que c'est perçu comme tel.
Absolument.
Les effets politiques sont là.
J'en viens. C'est-à-dire que on a en fait une mise à l'agenda et une instrumentalisation de la thématique migratoire pour mobiliser, pour créer de l'émotion, notamment parce qu'on est sur des thèmes qui sont très très peu rattachés à des connaissances rationnelles. Donc ce sont des thèmes et des objets, des façons de parler de la migration qui enflamment facilement les opinions publiques et qui, si vous voulez, servent de moteur pour canaliser tout un tas de formes de mécontentement, de malaise, d'insatisfaction par rapport à l'économie, par rapport à la société, par rapport aux transformations sociales, à tout un tas de choses. Et donc on a là comme ça un rôle de mèche d'allumage, en fait, si vous voulez, de la migration. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis pas spécialiste de l'opinion publique, mais quand on regarde un peu précisément les résultats des enquêtes d'opinion publique en France, concentrons-nous sur la France, sur les préoccupations principales des Français. Qu'est-ce qu'on trouve d'abord? On trouve le terrorisme, ensuite le chômage, ensuite les inégalités, ensuite la santé, ensuite l'éducation, ensuite les retraites, ensuite le niveau de vie. La migration n'apparaît que très 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 bas dans les préoccupations des Français à qui on demande qu'est-ce qui vous préoccupe, quels sont vos soucis.
Ouais, c'est une analyse biaisée, Hélène Thiollet, parce que d'aucuns vous diront que sur la question du terrorisme, sur la question même de l'éducation, les questions économiques, il y a peut-être aussi derrière cette problématique de l'immigration. En tout cas, d'aucuns vous le diront. Donc quand on déclare ça, en fait, on ne sait pas exactement s'il y a ou pas la question migratoire.
Absolument.
Derrière.
Mais l'intérêt de ces enquêtes d'opinion, c'est qu'elles n'invitent pas, elles ne suggèrent pas à la personne qui répond de parler d'une thématique en particulier. Ouais. Elles sont ouvertes. On dit, quelles sont vos préoccupations? Les gens listent ces questions de terrorisme, de chômage, d'inégalité, de santé, d'éducation en priorité. En revanche, quand on leur demande sur quoi voulez-vous que vos États et vos hommes politiques se positionnent fermement, là, ils disent l'immigration en premier. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la priorité donnée au discours sur l'immigration, c'est un travail qui est le fruit de la politisation des discours des hommes politiques et qui est devenu en fait une attente des publics, une attente de réaction forte et de contrôle de l'immigration. Donc tout ça juste pour dire qu'il faut quand même être un peu prudent sur le lien fait entre l'immigration et tout un tas de problématiques, pas du tout pour minimiser la question de l'immigration, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire, mais pour essayer de comprendre exactement les ressorts de ces mouvements d'opinion populaire qui sont dits anti-immigration, mais qui sont surtout beaucoup d'autres choses.
Thibaut Fleury-Graff, je demandais à Hélène Thiollet si la seule chose qui restait à l'Europe sur la question de la migration, c'était le contrôle des frontières. Peut-être que j'exagère, il y a aussi un autre volet qu'on voit de plus en plus, c'est la délégation de ces questions-là. Alors il y a évidemment, on a en tête bien sûr cet accord qui avait été passé entre l'Union européenne et la Turquie qui visait à réduire justement les flux migratoires, mais en fait depuis on a eu énormément d'accords, essentiellement des accords bilatéraux, par lesquels des membres de l'Union européenne déléguaient la gestion des migrants. Alors, ça s'est fait avec le Soudan, ça s'est fait avec le Niger, ça s'est fait avec le Tchad, ça s'est fait avec la Libye. C'est ça l'avenir de la gestion de l'immigration par l'Europe, c'est confier à un tiers, c'est en l'occurrence aux pays du Sud, cette question.
L'évolution va dans ce sens-là. Ça, en effet, on ne peut que le constater. Face à l'échec qu'a été les décisions européennes, notamment en 2015, qu'on a appelé les décisions sur la solidarité, c'est-à-dire les décisions prises par un certain nombre d'États membres de répartir entre eux les demandeurs d'asile pour éviter que la Grèce et l'Italie notamment fassent à trop de demandes. Ces décisions ont été un échec, il y a très peu d'États qui les ont respectées et la plupart sont sur des seuils extrêmement faibles de ce qu'on appelle ces relocalisations, c'est-à-dire d'accepter sur leur territoire des demandeurs d'asile qui sont arrivés par la Grèce ou par l'Italie en dérogation à ce qu'on appelle le règlement Dublin. Face à cet échec, la réaction de l'UE a été en effet de délocaliser, non pas relocaliser, mais délocaliser à l'extérieur de l'UE la demande d'asile. Et ça avait été très net.
On avait même parlé de ces fameuses plateformes de débarquement.
Exactement, c'est ce que j'allais dire au moment de l'affaire de l'Aquarius, qui peut-être signe là vraiment l'échec de l'Union européenne de manière particulièrement nette. La réponse qui a été apportée, l'affaire de l'Aquarius, je crois, c'est début juin dernier. Fin juin, il y a un Conseil européen et les chefs d'État sortent de ce Conseil en disant c'est bon, on a trouvé la solution, ça y est, il n'y a plus de problème.
Sauf qu'en l'occurrence, les pays potentiellement d'accueil n'ont pas l'air tout à fait chauds pour mettre en place des plateformes de débarquement.
Mais évidemment, est-ce que la France accepterait que le Maroc mette sur son territoire des plateformes de débarquement? Non, on est sur une question de souveraineté territoriale et par conséquent, ce qui est présenté comme une solution n'en est pas une, puisque les États sur lesquels on souhaite mettre ces plateformes sont censés, doivent y consentir. Or, évidemment, ils n'y consentent pas. Et je rebondis sur ce qui était dit auparavant. Peut-être que si c'était intéressant cette comparaison des différentes enquêtes d'opinion, puisque on voit que la migration apparaît comme un point aujourd'hui très sensible parce que c'est un point qui touche à la souveraineté. Or, il est vrai que dans beaucoup d'autres domaines, les États ont perdu leur souveraineté, en ce sens qu'il y a beaucoup, pour le coup, de conventions internationales juridiquement contraignantes ou de droits de l'Union européenne. Il reste un domaine, quelques-uns, la défense, et encore on parle de défense européenne, la fiscalité et la migration touchent directement à cette souveraineté. Donc, finalement, la question migratoire est aussi un moyen pour ces parties qui sont très favorable à cette souveraineté, de dire attention, c'est notre dernier bastion et finalement il faut se positionner sur ces thématiques.
Hélène Thulet.
Juste pour compléter brièvement le propos qui vient d'être tenu, on peut aussi se poser des questions sur l'efficacité des stratégies d'externalisation, comme ça, du contrôle des frontières à des pays tiers. Elles sont effectivement, comme vous le rappeliez, le produit d'un échec d'une entente intra-européenne sur la gestion des migrations. Donc, comme on n'arrive pas à s'entendre et à travailler ensemble, on va demander à d'autres de faire le travail. Donc, c'est pas très rassurant. Et d'autre part, est-ce que vraiment elles sont efficaces? L'Union européenne elle-même a publié en 2015, au moment où on renouvelait ces accords de coopération qui viennent des accords de Cotonou, qui viennent des années 2000 et des accords avec les pays ACP.
Enfin, il y en a des plus récents qui ont été passés ces derniers mois, depuis 2015.
Absolument. Mais en 2015, l'Union européenne a publié un rapport.
Ouais.
Le Parlement a publié un
sur
rapport.
L'efficacité de cette externalisation.
Sur l'efficacité de cette externalisation qui expliquait que ça n'était pas efficace. Voilà. Donc, l'Union européenne sait que ces politiques ne sont pas efficaces. On peut aussi penser au fait qu'elles sont éventuellement très contraignantes en matière de souveraineté, puisqu'elles obligent les pays européens à passer des accords avec des États voyous ou avec des États qui vont ensuite faire pression sur l'Europe pour obtenir des prébendes en matière de développement ou des passe-droits en matière de juridiction internationale. Donc ça aussi, ça entame la souveraineté de l'Europe, de s'allier avec des pays comme le Soudan, l'Érythrée ou d'autres pays qui vont ensuite faire pression sur l'Europe, comme le faisait le colonel Kadhafi en son temps, donc sur l'Italie et sur l'Europe. Donc cette souveraineté, elle est quand même aussi menacée par ces accords d'externalisation qui sont le symbole d'une forme d'échec de l'Union européenne.
Thibaut Fleury-Graff, on arrive presque au terme de cette émission. Hélène Thiollet parlait à l'instant de la question du développement. On sait que, évidemment, la manière la plus pérenne, la plus durable, peut-être de limiter l'immigration, on va mettre de côté le changement climatique, mais c'est probablement développer justement l'économie des pays du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à l'avenir, précisément, l'aide au développement soit conditionnée à la bonne gestion, je mets des guillemets, des flux migratoires par les pays du Sud? Ça sera notre sujet de demain.
Elle l'est déjà dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on sait notamment les pressions qui sont faites aujourd'hui, y compris par la France, mais par de nombreux autres États membres de l'Union européenne, sur des pays comme le Maroc, qui est devenu aujourd'hui le pays qui gère en grande partie la question des migrations pour l'Union européenne, en ce sens qu'on conditionne un certain nombre d'aides, d'attributions de visas, etc., à l'efficacité de la police marocaine pour gérer les migrations et éviter les départs depuis le territoire du Maroc vers le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est peut-être un risque. Ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que dans ce pacte, il est beaucoup question de ça. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ce pacte concerne les migrations, mais tant du point de vue des pays d'origine que des pays de transit, que des pays d'accueil. Or, sur les pays d'origine, c'est un des objectifs du pacte, des 23 objectifs du pacte, que justement d'aider au développement ces États-là, dans le cadre de ce qui s'appelle le programme Horizon 2030, qui est un programme de développement, pour aider ces États à faire face aux difficultés économiques, politiques, etc., qui favorisent les migrations, puisqu'elles placent les populations dans des situations qui les obligent à fuir.
C'est vers là qu'on va, Hélène Thiollet, un deal du genre, on vous donne de l'argent pour vous développer, et en échange, vous gérez les migrants à notre place.
Oh, c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on fait au Maroc, évidemment, mais dans des pays encore plus fragiles, au Niger, en Mauritanie. Donc c'est une tendance des politiques de développement et de leur articulation aux politiques migratoires. Mais là encore, on connaît le peu d'efficacité de ces politiques. Et ça me permet de revenir sur un point important. Par exemple, on connaît le peu d'efficacité des politiques d'aide au développement. On sait que l'aide au développement n'empêche pas les migrations. Et ces éléments qui sont documentés par la recherche, qui sont des faits d'information, ne sont absolument pas pris en compte dans les dispositifs publics. Et ça rend la nécessité d'avoir de l'information et des contributions scientifiques au débat public et aux politiques publiques beaucoup plus urgentes.
Rendez-vous demain à 11h sur France Culture. Ça sera justement notre sujet dans Culture Monde. Merci Hélène Thiollet d'avoir fait le petit teasing pour l'émission de demain.
Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown, moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas.
Merci beaucoup à nos deux invités du jour, Hélène Thiollet, chercheuse au CNRS, à l'initiative du GIEC des migrants, des migrations, c'était hier.
Oui, le groupe international d'experts sur les migrations qui a été lancé hier, justement pour favoriser les liens entre la recherche et les politiques publiques et les décideurs publics et pour leur fournir le matériel pour faire leur travail.
Oui, parce que pour bien comprendre ces choses, il faut avoir une approche un peu scientifique, un peu objective. Merci également à vous, Thibaut Fleury-Graff, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, je rappelle pas vos ouvrages, mais en revanche, on les mettra sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs qui veulent en savoir plus puissent se plonger dedans. Un grand merci à vous. Rendez-vous demain pour poursuivre notre série sur les droits de l'homme, actualité d'une utopie. Mais tout de suite, actualité des idées du monde avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les réseaux sociaux qui seraient responsables de la montée du populisme, Brice?
Bah oui, en tout cas, force est de reconnaître la coïncidence de leur double montée en puissance, écrit Enrique Dans, professeur espagnol de système et technologie de l'information. Même si le populisme est presque aussi vieux que la démocratie elle-même, alors que les réseaux sociaux sont une réalité bien plus récente, elle date de la fin des années 90, mais le populisme auquel sont confrontées nos démocraties n'est pas non plus celui de Juan Perón, Byron. Il s'agit d'une version en phase avec les nouveaux usages sociaux induits par le numérique, comme celle de Perón l'était avec la diffusion de la radio et des meetings de masse en Argentine. Le populiste contemporain apprécie un médium qui lui permet de cibler avec une extrême précision les messages qu'il veut diffuser en fonction des publics, ce qui lui est d'autant plus nécessaire qu'il tient en réalité des discours différents et souvent contradictoires selon ses publics. Les réseaux sociaux ont d'abord été considérés comme un moyen de diffuser une protestation partie de la base dans des pays qui ne jouissaient pas des libertés d'expression démocratique. C'est le rôle qu'ils ont notamment joué dans les printemps arabes. Mais ça, c'était avant. À présent, on est loin de ces mobilisations. La structure sociale des réseaux sociaux, écrit Enrique Dance, est simplistique. Vous êtes d'accord, vous likez, vous ne l'êtes pas, vous écrivez quelque chose de vache et même de vitriolé, pas de souci, vous ne risquez rien d'autre que des représailles théoriques, rhétoriques. Les inhibitions limitant votre agressivité naturelle sont mises hors jeu. Bientôt, vous ne serez plus environné que d'amis qui partagent vos opinions et vos goûts, qui vous font vous sentir bien dans votre peau, justifié, entouré d'alter ego. Le réseau social s'est transformé en chambre d'écho. Une bulle invisible filtre tout ce que vous lisez, façonnant votre vision du monde, avec pour effet de simplifier à l'extrême la complexité du monde réel. En effet, écrit dans The Guardian, Jamie Bartlett, le responsable de l'analyse des médias sociaux au think tank britannique Demos, le populisme comporte deux caractéristiques majeures. Primo, il propose des réponses immédiates et simples à des problèmes compliqués, généralement en désignant des boucs émissaires. Pour la droite populiste, les immigrés, qui ruinent les modes de vie traditionnels et l'État-providence. Pour la gauche populiste, la finance et la mondialisation qui provoquent l'effondrement des revenus. Deuxio, il prétend parler au nom des gens simples et opprimés contre une élite distante et corrompue. Or, les réseaux sociaux fournissent la plateforme idéale pour ces deux angles d'attaque. Il ne faut pas perdre de vue, poursuit Jamie Bartlett, ce qu'est le modèle économique hautement rentable de ces espaces virtuels numériques. Leurs profits leur viennent de la publicité et, poursuit-il, chacun dans ce milieu publicitaire vous le dira, ce qui fait vendre, c'est l'émotion et la simplicité. Bien sûr, les messages véhiculant des contenus populistes marchent beaucoup mieux que quoi que ce soit provenant de ce qu'il appelle le centre insipide. La radicalité, la véhémence, l'outrance sont privilégiées, ben tout simplement parce qu'elles sont payantes.
Il y a donc, Brice, de fortes affinités entre la psychologie populiste et celle du numérique.
Oui, parce qu'Internet nous a habitués à obtenir en quelques clics tout ce que nous voulons. Du morceau de musique au billet d'avion, en passant par le résultat du match de la veille ou le rendez-vous amoureux d'un soir. Tout en apparence y est ultra simple, personnalisé, accessible, immédiat. Comme le monde de la politique apparaît frustrant en comparaison. Il nécessite de l'expertise, de longs débats, des compromis. Les décisions sont lentes à émerger et encore plus à produire leurs effets. Cela heurte nos nouvelles habitudes de consommation car nous voulons tout de suite comme sur Internet. Les populistes promettent de passer en force, écrit Jamie Bartlett. Ce qu'ils promettent, c'est une politique de la hache. Un grand coup à droite, un grand coup à gauche, et vous aurez exactement ce que vous désirez, sans trop avoir à réfléchir. Et tout ce qui se met en travers du chemin devra être renversé. Et c'est ce que dit aussi mon professeur espagnol de tout à l'heure, Enrique Dance. Le leader populiste promet des solutions hyper simples à des questions que les politiques traditionnelles prétendent complexes. Or, sur les réseaux sociaux, ces idées bien particulières nous arrivent en provenance d'amis, comme si elles étaient neutres et objectives. Je cite, « Des histoires en noir et blanc avec des bons et des méchants sont ainsi conditionnées avec une précision de laser en direction de ceux qui vont l'apprécier le plus. Plutôt les solutions les plus simples et les messages clairs et concis que des zones grises d'incertitude sur des problèmes complexes par lesquels on n'a pas envie d'être ennuyé. » En outre, la désignation d'un ennemi commun, d'une tête de Turc, ça fait se sentir bien, ça donne le sentiment d'avoir raison en masse, et ça, c'est jubilatoire.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.